Bonjour, à propos sur l'ailleurs, cette semaine, nous recevons un invité dont la voix est maintenant connue des auditeurs et auditrices de Radio Ville-Marie, mais la personne elle-même est moins bien connue. Alors, il s'agit de Serge Cazelet. Serge Cazelet, bonjour.
Bonjour.
Alors, nous avons décidé, vous qui dispensez votre science et vos connaissances lors de cette émission hebdomadaire qui s'appelle « Au premier temps de la chrétienté », de vous inviter pour que les gens voir ou entendre quelle est cette personne derrière cette voix savante. Juste pour rappeler, nous ne sommes pas parents, non, comme tous les Cazelets, nous avons un lien de parenté.
Mais nous ne sommes pas frères et sœurs ou
non, 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 non. Et vous avez une formation d'historien, de philologue, vous parlez plusieurs langues qui... soit ancienne ou du moins peu parlée dans le monde, mais ça s'appelle le syriaque, le copte. Vous enseignez la grammaire du vieux grec classique à l'université. Alors, vous parlez de l'araméen, des trucs comme ça fait savant, sans parler du latin et autre chose. Et vous nous informez, vous nous faites redécouvrir une période du monde occidental qui sont les premiers siècles de la chrétienté. Et le courrier que nous recevons témoigne bien de l'intérêt que les gens portent à vos enseignements, mon ami. Mais là, nous allons parler de vous et de lieux que vous aimez, comme ça se fait dans le cadre de cette émission. Et le premier endroit où vous nous amenez, c'est le quartier Saint-Sacrement à Québec.
Oui. Alors, ce que je considère comme étant mon quartier Saint-Sacrement, parce que j'y ai habité pendant plusieurs années. Alors, ce que je considère comme étant mon quartier se situe du sud au nord, entre le chemin Sainte-Foy et le boulevard de l'Entente, et d'est en ouest, entre l'avenue Émile Côté, où j'ai habité de 2006 à 2009, jusqu'à l'avenue Saint-Sacrement.
Non, vous n'avez pas seulement qu'une notion du temps, vous avez une notion de l'espace, vous faites presque géographe.
Hein? Ah ben, oui. Alors, j'ai habité, je viens de le dire, là, sur l'avenue Émile Côté de 2006 à 2009, mais j'ai aussi habité...
Ça, c'est un moment où vous étiez à l'Université Laval.
À l'Université Laval, c'est
vous étiez en train de devenir vraiment le savant que vous êtes aujourd'hui. Hein?
C'est ça. Et j'ai habité là aussi de 2001 à 2004 sur l'avenue de Vimy. Ça, c'est alors que je faisais ma maîtrise à l'Université Laval, avant que je m'expatrie une année pour Lyon et au Nouveau-Brunswick. Alors, qu'est-ce que je retiens dans ce quartier-là, outre le fait que c'est l'époque où j'étais étudiant? C'est la vie de quartier, la vie de quartier animée que j'ai peu rencontrée ailleurs.
Ah ouais?
En fait, j'ai rencontré la même chose en France. Mais au Québec, avoir une vie de quartier aussi animée et avoir des voisins aussi proches qui se parlent, c'est quelque chose que j'ai trouvé exceptionnel et c'est inédit. J'ai jamais vu ça ailleurs encore.
Ah non. Et donc, il y a des gens que vous avez connus là qui vous ont marqué,
oui,
qui sont restés dans votre mémoire.
Oui, il y avait un épicier qui s'appelait Monsieur Saint-Pierre, qui tenait une petite épicerie, boucherie sur le chemin Sainte-Foy. Entre l'avenue du Père Pelletier et l'avenue Marguerite Bourgeois. Cette épicerie-là n'existe plus aujourd'hui. Ça a changé de vocation. Je crois que c'est devenu un café. La dernière fois que j'ai passé devant, l'an dernier, c'était devenu un café.
Vous avez versé un pleur.
Oui. Ben, déjà, de 2006 à 2009, quand je suis retourné dans le quartier, ça n'existait déjà plus. Mais de 2001 à 2004, j'ai vécu des moments extraordinaires avec cette épicerie-là. C'est drôle à dire parce que, étant donné que je lui achetais, j'étais étudiant, j'avais des moyens qui étaient assez modestes, je lui achetais toutes ces parties qu'il ne vendait pas autrement ou qui avaient de la difficulté à vendre ou qui transformaient
partie de viande.
En d'autres choses, des parties de viande. Alors, je lui achetais des jarrets, je lui achetais des trucs comme ça.
Mais c'est vrai que vous avez, j'aurais pu dire ça dans votre présentation, vous avez des intérêts culinaires, vous aimez touiller.
Effectivement. c'est mon passe-temps favori après lire le Syriac, là, c'est cuisiner qui est mon passe-temps favori. Et comme je vous disais aussi, dans ce quartier-là, la vie de quartier. J'avais loué un appartement sur la rue de Vimy. Mon propriétaire, c'est quelqu'un, c'est une figure publique, c'est une figure connue, c'était Yvon Bussière, qui est conseiller municipal indépendant à Québec encore à ce jour. Il l'était à l'époque, il l'est encore à ce jour. Et c'est un bonhomme, premièrement, c'est un grand bonhomme, costaud,
Un peu comme vous,
quoi. Qui porte la barbe, puis qui a une voix qui mm-hmm. porte. Et en plus d'être conseiller municipal, il avait, ce que j'ai découvert parce que je ne le savais pas à ce moment-là, il a une maîtrise en théologie. Et il a des intérêts en théologie et en histoire de l'Église. Et c'est un bonhomme, étant mon propriétaire, qui venait à l'occasion s'asseoir, non pas chez nous, mais chez le voisin d'à côté, qui est un Français, Richard. Richard qui avait toujours sa guitare et qui avait toujours son flacon de pinard. Et Yvon Bussière, notre conseiller municipal, venait s'asseoir là. Des fois, on avait des discussions absolument...
Pas nécessairement politiques.
Même pas du tout politiques. On parlait de tout. On refaisait le monde. On parlait d'astronomie. On parlait de musique. Notre voisin, c'est un ancien marin, Richard. Alors, on parlait de bateau en buvant du pinard. Et
c'est d'ailleurs une chose que vous négligez pas, ça. Vous appelez ça du pinard, mais le bon vin, hein?
Ben, effectivement, j'ai une anecdote qui est assez intéressante, c'est que Richard avait toujours du pinard coussi-coussa, et un soir, qui était avec sa guitare, parce qu'il sortait souvent vers 10h le soir. Et moi, j'arrivais souvent vers ces heures-là de la bibliothèque, puis mon épouse travaillait dans une épicerie, puis elle terminait son corps de travail à 9h, puis on arrivait vers 10h à mm-hmm. la maison, puis Richard était là avec sa guitare. Puis un soir, on est arrivé avec une bouteille de Domaine de Gournier, qui est un vin un vin pas tellement cher.
Ah, mais qui vient du sud.
Un vin de pays de Cucugnan, rouge ou rosé. Puis c'est devenu notre vin, un peu notre vin national. Qu'est-ce qui est cocasse? C'est l'année que j'ai habité à Lyon, j'ai trouvé du Domaine de Gournier à l'épicerie. Puis ça coûtait 2,90 € la bouteille, et c'est devenu mon vin quotidien là-bas aussi. Et toujours avec cette pensée-là qu'on était dans le quartier Saint-Sacrement.
Un quartier populaire.
Oui, un quartier populaire, mais un beau quartier avec encore des belles maisons qui ont leur colonne en bois extérieur que les gens repeignent aux 2 ans en état de mauvaise humeur.
Un quartier qui a de l'âme.
Oui, avec le parc aussi que j'ai pas mentionné où j'amenais mes enfants, puis qui a une vue sur la basse ville, une vue sur les montagnes, le parc Saint-Sacrement, qui est un très très beau parc aussi. Où on amenait les enfants à jouer, mais il y avait des bancs, puis les bancs donnaient justement avec vue sur la basse ville.
Et votre âme de poète pouvait s'exprimer.
C'est ça.
Et parlant de poète, vous nous faites entendre une chanson de Gainsbourg vraiment peu connue, qui appartient à Gainsbourg première période, je dirais,
oui,
qui date de 1959, mais qui annonce déjà les transformations du Gainsbourg qui va arriver avec Confidentiel ou Gainsbourg Percussion. C'est déjà une transition. Un violon, un jambon.
Oui.
Il y a un côté un peu western.
Oui, côté western, un côté aussi convivial dans cette chanson-là, puis c'est ce qui fait que... c'est drôle parce que c'est effectivement une chanson qu'on écoutait. Mon voisin aimait écouter du Gainsbourg.
Ouais.
Et c'est une chanson qu'on avait sur un album d'anthologie, puis qu'on écoutait souvent.
Ouais.
Alors, cet air-là, quand je l'entends, me rappelle le quartier Saint-Sacrement. Aussi,
parce que c'est un disque qui est sorti sur un Super 45, qui a été repris beaucoup plus tard seulement quand on se fait des anthologies de CD.
Oui.
Mais là, on demandait aux gens de prêter une oreille fort attentive parce que c'est un Gainsbourg méconnu, sinon inconnu.
Écoute-moi, toi qui te crois seul au monde, tout seul abandonné. Faut 3 fois rien pour entrer dans la ronde de tous les mal-aimés. Suspends un violon, un jambon à ta porte, et tu verras rappliquer les copains. Tous tes soucis que le diable les emporte jusqu'à demain. Ta petite amie t'a largué en route, mais fille, c'est pas sérieux. L'amour est aveugle, ça aucun doute, et oui, ça crève les yeux. Suspends un violon, un jambon à ta porte, et tu verras appliquer les copains. Tous tes soucis que le diable les emporte jusqu'à demain. les emporte jusqu'à demain.
Serge Cazelet, nous quittons Québec et nous allons vers le Bas-Saint-Laurent. Nous allons à un village très beau sur le bord du fleuve qui s'appelle Saint-Simon-sur-Mer.
C'est ça.
Alors, ça, c'est lié un peu aussi à des épisodes familiaux, je crois.
Oui, c'est ça. Alors, Saint-Simon, pour situer un peu les auditeurs, c'est, comme vous l'avez dit, situé dans le bas du fleuve, sur le fleuve Saint-Laurent, entre Trois-Pistoles et Saint-Fabien, ou, si on veut y aller à plus grande échelle, entre Rivière-du-Loup et Rimouski.
Disons, c'est des lieux plus connus.
Oui. Et, alors, nous avons un chalet familial là-bas. C'est un chalet qui appartenait à ma grand-mère qui vient de fêter début mars, ses 90 ans.
C'est très bien, hein?
En forme.
Ah oui.
Et
d'ailleurs, nous la saluons.
Oui, nous la saluons parce qu'elle est certainement à l'écoute. Elle m'écoute, elle écoute ma série. Mon
religieusement.
Oui, c'est le cas de le dire. Alors, c'est bien certain qu'elle écoute cette émission-là aussi. Le chalet actuellement appartient à ma tante Gertrude et mon oncle Henri, Gertrude étant la sœur de ma mère. Et ils y habitent à l'année maintenant.
Ah
le
bon.
Chalet a subi de multiples transformations au fil des années.
Mais ils doivent avoir une vue extraordinaire.
C'est vraiment extraordinaire. C'est ça qui m'a le plus marqué de cet endroit-là. La vue, mais une vue dans toutes les directions.
Oui, parce que le fleuve est vraiment commence vraiment à s'évaser, là.
Oui, le fleuve s'évase, le fleuve est salé. Il y a des îles à ce niveau-là. Régulièrement, on a des bateaux qui passent. Et la nuit, on voit de l'autre côté, on voit les lumières.
Mmh.
Et la nuit, on voit aussi les étoiles. Puis, les étoiles, c'est quelque chose d'assez exceptionnel dans ce coin-là, avec la Voie lactée. Alors, comme je disais, le chalet actuellement est habité par ma tante Gertrude et mon oncle Henri. Au fil des années, le chalet a subi des transformations de simple chalet deux saisons. Maintenant, il y a un salage de coulée, il y a deux poêles à bois dans ce chalet-là. C'est un endroit qui est encore minuscule, tout petit, mais on s'y retrouve là en famille, puis c'est toujours convivial, on y mange toujours bien. Parfois, c'est moi qui ai cuisiné, bien entendu.
Oui, mais quoi qu'un nanny, la grand-mère, oui. Elle n'est pas vilaine à la cuisine.
Oui, puis ma tante Gertrude aussi.
Puis votre
assez,
mère,
assez
entre autres,
exceptionnelle,
aussi.
Oui, ma mère aussi.
Alors, vous avez baigné dans un bon bouillon.
Oui, alors, c'est le genre d'endroit, ce chalet-là, où on se lève le matin, puis ça sent la brioche, par exemple, ou ça sent le pain frais. Parce que ma grand-mère et ma tante font du pain, font de la brioche maison. Puis bien souvent, on se lève, puis hop, c'est ça. Mm. L'autre chose qui est assez particulière, ben, c'est le fleuve et ses marées. On a pris des marches, là, autant avec mes enfants, avec mon épouse, avec ma tante Gertrude, des marches inoubliables. Puis c'est non seulement à cause de l'espace, à cause des odeurs, mais aussi à cause des conversations qu'on avait. Parfois, c'était des conversations très brèves, mais toujours très intenses et très profondes.
Un côté philosophique, sans le dire. Hein?
C'est ça. Alors, on prend prétexte d'un rocher pour se poser la question sur la beauté du monde, ou sur l'immensité du monde. Nous, on est si petits, puis on a un monde qui est si grand. Un monde qui est toujours en constant changement aussi. Parce que les marées nous amènent toujours des paysages différents.
Est-ce qu'on pourrait dire que ce lieu que vous fréquentez depuis votre enfance a joué un rôle sur votre évolution personnelle et sur le choix de votre carrière?
Ben, ça a certainement, justement à cause de certains moments que j'ai passés là-bas, à l'époque, il y avait un balcon extérieur. Là, aujourd'hui, le balcon est fermé pour qu'il soit utilisé, que ce soit un espace utilisable à l'année. Mais des soirées sur le balcon ou des soirées avec mon fils, le plus vieux, Jérémy, qu'on était simplement assis sur une chaise longue, on regardait les étoiles. On regardait les étoiles filantes parce qu'on y allait souvent en nous au moment de la période des perséides. Et d'observer les étoiles comme ça, sans rien dire, de regarder l'immensité du monde, et aussi, à force de regarder toujours au même endroit, on voit des nouvelles étoiles apparaître. oui, ça a certainement eu un impact sur mon choix de carrière, mais en même temps, un impact de renforcement aussi.
Ouais.
Dire, ben, j'ai fait le bon choix, parce que ce qui m'intéresse, c'est de toujours me questionner, de toujours me poser des questions. Puis un lieu comme ça, où on a des marées, qui nous amène toujours des paysages différents, qui nous amène même parfois des surprises. Je pense à certaines occasions où il y avait des grandes marées, puis on trouvait des crabes.
Hein?
Et on se les faisait cuire.
Ah, t'es non! Mais de ce lieu, je retiens aussi qu'il était, et il est toujours, intergénérationnel.
Oui,
vous avez toujours
vécu
la grand-mère, les parents, les oncles, les tantes et les enfants.
Les puis cousins, même, les cousines aussi.
Oui, puis même les petits-enfants. Oui. Alors donc, il y a pas un choc de génération, mais au contraire, hein, une forme de mixité.
Oui, parce qu'on peut le dire, ma grand-mère, c'est ça, ma mère, moi, mes enfants, on est déjà 4 générations.
Et ça a toujours animé ce lieu.
Ça a toujours animé, on a toujours été présents. Il y a toujours eu de la vie là, il y a toujours eu de la visite, il y a toujours eu quelque chose qui se passait là, puis on savait que on était invité, on pouvait s'y rendre, il allait se passer quelque
chose. Mais là, si ça continue, il y a bien des gens qui vont se sentir invités, ils vont arriver à Saint-Simon sûrement, parce qu'il y a Saint-Simon à l'intérieur,
oui.
Hein, puis là, il y a une route qui mène au bord de mer.
Oui.
Parce que les gens là-bas, ils disent la mer. Ils
oui,
disent pas
ils disent
le
la
fleuve,
mer, c'est
hein?
ça. Ils disent pas le fleuve, ils disent la mer.
Et c'est vraiment une mer, parce que bon, c'est vrai que c'est toujours le fleuve, mais comme vous avez dit, il y a de l'eau salée, il y a de la marée, toutes les manifestations.
Il y a tous les poissons de mer. Par exemple, du hareng, on en a mangé énormément là-bas, parce que souvent, quand les marées descendaient, il y a des harengs ou des caplans qui restent.
Ah, les caplans qui roulent
oui,
sur la grève.
Oui, c'est beau à voir en plus. Et puis il
c'est bon à manger.
Ben oui. On allait chercher ça à la chaudière.
Et encore, vous y retournez, hein, je
oui,
pense.
Oui, ben, je suis allé justement, c'est drôle à dire, c'est la première fois que j'y allais en hiver. Je suis allé pendant le temps des fêtes cette année, pendant la période des fêtes 2012. C'est un autre point de vue, encore un autre paysage, un paysage de glace.
Ouais.
C'est impressionnant aussi parce
c'est peut-être plus beau même en hiver.
Il y a des glaces qui remontent, là, puis il y a des pics de glace qui se sont formés là. C'est un autre paysage, un autre point de vue, qui est tout aussi beau.
Et tout à l'heure, vous nous avez parlé des étoiles, l'observation des étoiles, et la chanson qu'on nous proposait de Maxime Le Forestier, l'écho des étoiles.
Oui.
Vous avez écouté ça là-bas?
J'ai pas écouté ça là-bas, mais c'est une chanson qui me rappelle toujours ce lieu-là. Mais aussi, qu'est-ce qui est intéressant dans cette chanson-là, c'est que Maxime Le Forestier cite un grand personnage qui s'appelle Hillel.
Tiens donc.
Un grand rabbin du premier siècle.
Ah bon, ça c'est votre période, ça.
Oui, puis dans cette chanson-là, Maxime Le Forestier, un des couplets, il cite ces mots de Hillel, que je vous laisse découvrir d'ailleurs.
Bon, ben alors on va écouter avec une grande attention Maxime Le Forestier, l'écho des étoiles.
J'avais piqué par les sexes, puis mordu par le mystique, pas même relevé l'architecte au basilic. Un soir on prend le voile, le matin on les met. Mais l'écho des étoiles on ne l'entend jamais. Mais l'écho des étoiles on ne l'entend jamais. Si je ne suis pas pour moi, qui le sera? Je ne suis que pour moi, que suis-je? Si ce n'est pas maintenant, quand? Si ce n'est pas maintenant, quand? Vu le taulier du château, derrière sa meurtrière, noyé dans les sanglots, une si jolie carrière. Un soir on se dévoile, le matin on se tait. Mais l'écho des étoiles on ne l'entend jamais. Mais l'écho des étoiles on ne l'entend jamais. je ne suis pas pour moi, qui le sera? Si je ne suis que pour moi, que suis-je? Si ce n'est pas maintenant, quand? Si ce n'est pas maintenant,
cette fois, nous suivons le fleuve, mais vers vraiment la mer. Nous traversons cet océan et nous arrivons en Europe, sur cette frontière entre l'Espagne et la France, les Pyrénées.
Oui, les Pyrénées.
Mais pas les Pyrénées qui donnent sur l'Atlantique, mais les Pyrénées qui donnent sur la Méditerranée. On appelle ça les Pyrénées orientales.
Oui.
Puis là, ça rejoint le pays d'origine des Cazelets, parce que nous sommes en Languedoc-Roussillon, et c'est de cette région-là que viennent les Cazelets.
Oui.
Vous avez fait un pèlerinage?
Ah ben, plus qu'un pèlerinage. C'est effectivement, quand j'étais sur place, c'est quelque chose auquel je pensais souvent. Et il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ont des noms en case là-bas. Mm. Casobon ou Cazès ou bon. Caz.
La maison, la casa. Hein?
Oui. Ce qui est assez cocasse comme anecdote, c'est que parfois quand je nommais mon nom, les gens me disaient, ouais, mais de quel village tu viens, toi t'as un accent. Ils disaient parce que mon nom était tout à fait un nom de l'endroit, un nom typique. Mm-hmm. Ben, je disais, je viens du Québec, je viens de.
Mais d'ailleurs, nous les Cazelets au Québec, on se fait souvent demander, justement parce que c'est le Cazelet d'origine venait du Languedoc et non pas d'autres provinces de l'ouest de la France. Sinon, on se fait souvent demander si on est des Français d'origine.
Oui.
Alors que lorsqu'on va là-bas, c'est...
On passe pour être quelqu'un de la place.
Oui,
c'est notre accent qui nous trahit, je pourrais dire. Alors, j'ai passé tout un mois là-bas en juillet 2004. C'est au cours de cette année où je me suis expatrié avec ma famille en France.
C'est terrible, ça.
Ah, c'est absolument terrible.
Vous avez dû souffrir de façon épouvantable.
Oui, surtout dans les Pyrénées. Hein? À boire du vin de toutes sortes. Et effectivement, l'endroit où nous habitions, l'endroit où on avait notre gîte, s'appelait Saint-Arnac. Mm. Mais non pas arnaque comme une arnaque, c'est Saint-Arnache qui signifie le centre du monde. Mm. Ce sont des fonctionnaires de l'État français qui ont transformé Saint-Arnache en un saint qui n'existe pas d'ailleurs. Ah. Aucun saint qui s'appelle Arnaque. Mm. Et le nom du village, le nom médiéval, c'était Saint-Arnache, dans un mélange de Languedoc et de catalan qui est là-bas, parce que ça se mélange encore beaucoup. Il y a encore beaucoup même il y a beaucoup de Catalans qui habitent dans cette région-là. Ça s'appelait le centre du monde. Puis on avait une belle colline dans notre village. Puis on est monté en haut une fois, puis il y avait une ancienne forteresse médiévale qui était là.
En ruine.
Alors, ce village-là est situé entre Saint-Paul-de-Fenouillet et Maury.
Ça, c'est deux endroits fort connus. Mais le Maury un peu plus, parce que les gens qui aiment le vin,
Oui.
Mieux, connaissent
le mori. Le mori, on connaît ça.
Symbole de fenouillet, un peu moins.
Mais, symbole de fenouillet, encore le nom le dit, fenouillet, fenouille. C'est un endroit dans ce secteur-là où il y a beaucoup de fenouil sauvage qui poussent. Puis moi, j'étais un peu sceptique quand on me le disait, mais effectivement, j'en ai trouvé.
Le fenouil, là, c'est assimilé un peu à la nette. Là,
c'est ça. J'en ai trouvé beaucoup. Il y a du fenouil sauvage, il y a du thym sauvage qui pousse là-bas. Moi, ça m'impressionnait énormément.
Et donc, ça aidait à faire la cuisine.
Oui. Il y avait des figuiers, mais les figuiers, les figues n'étaient pas encore mûres en juillet. Mais je regardais ça, puis déjà, je salivais à la pensée que les gens qui allaient être là allaient pouvoir récolter des figues. Mais on me disait que pour plusieurs endroits de la place, les figues, c'est quelque chose de vulgaire. On ne les mange pas, on les donne aux cochons.
Oh mon Dieu.
Chanceux et heureux cochons.
Ouais. Mais les Pyrénées, c'est des montagnes méconnues. On pense, quand on pense aux montagnes, en Europe, on pensait aux Alpes. Mais les Pyrénées, on dirait qu'on les oublie. Et c'est vrai que c'est moins haut que les Alpes, ça n'a peut-être pas des paysages aussi grandioses, mais il y a un côté intime.
Un côté intime, puis un côté qui me plaisait beaucoup, un côté où il y a une certaine forme de mysticisme qui est dans l'air ambiant.
Ah, vous allez nous expliquer ça.
Oui, comme je vous disais, de notre village Saint-Arnac, nous avions une petite colline avec des ruines médiévales. Et le gîte que j'avais loué, parce qu'on appelait ça un gîte là-bas, puis tout le monde nous parlait de notre gîte, nous avions une terrasse, et de la terrasse, j'avais une vue assez extraordinaire sur une forteresse cathare.
Ah, laquelle?
Kéribus.
Ah, Kéribus, ah oui, c'est presque fondu avec la pierre, oui. C'est magnifique.
Oui, oui. Et tout autour, il y a énormément de forteresses cathares aussi, nous en avons visité quelques-unes, naturellement, Kéribus, nous en avons visité d'autres aussi. Uh-huh. Et à se promener comme ça au travers, c'est des routes qui sont sinueuses, étroites. Parfois même, on se demande si deux voitures peuvent passer,
ouais,
peuvent se rencontrer, puis avoir comme ça des ruines médiévales un peu partout, des petits ermitages. Je pense aussi à un autre ermitage, là, c'est dans un secteur près de Saint-Paul-de-Fenouillet qui s'appelle les Gorges de Galamus. Où là, je vous parlais de route étroite. Pour passer, il y a un gardien à chaque extrémité de la route et avec des walkie-talkies puis qui nous disent quand on peut passer.
Mais
complètement au fond de ces gorges-là, d'une espèce de ravin, il y a un ermitage médiéval qui est encore là, qui est bien conservé, la chapelle de cet ermitage-là était faite à même une grotte naturelle.
Donc, ça, c'est l'ermitage Saint-Antoine, donc?
Oui, c'est ça, l'ermitage Saint-Antoine.
Et ça, c'était sur la route des gens qui allaient sûrement vers Compostelle?
Ça? Oui, parce qu'effectivement, ça aussi, la route de Compostelle passe par là, puis par plusieurs sentiers aussi. J'ai même des photos de moi qui est sur la route de Compostelle. Je ne me suis pas rendu jusque... Je compte bien le faire un jour, mais c'est simplement d'en avoir marché un bout. Et c'est les paysages aussi, les paysages de vignobles, des vignobles qui sont cultivés à même les pentes et les escarpements. C'est assez impressionnant.
C'est pas des vignobles mécanisés parce que les pentes ont un peu raide.
C'est ça, tout est cueilli à la main, puis tout est fait un peu de manière artisanale. Puis chaque producteur a
C'est jamais du grand vin, mais c'est du bon vin de pays.
C'est ça, c'est du vin qu'on boit à grande lampée, comme on disait là-bas, Côte du Roussillon village, puis du Mori, qui est un vin fortifié, ou du Muscat aussi, que les gens cultivaient aussi là-bas.
J'espère que vous êtes allé un peu plus vers la mer, là, à Rivesaltes. Le Muscat de Rivesaltes, c'est pas vilain.
Oui.
Il y a une famille qui produit du Muscat qui s'appelle les Cases.
Oui.
D'ailleurs, qui sont un peu parents avec nous de loin. Parce que nous, messieurs Petite Maison, Cazelet, avec messieurs des Cases, C-A-Z-E-S, on fait un village, n'est-ce pas?
Il y a Collioure aussi, dans où je suis allé avec sa vue et ses couleurs.
Sa vieille église romane et puis la côte rocheuse.
Magnifique.
Ah, Seigneur. Et c'était un lieu où les peintres se rassemblaient.
Oui, justement, à cause de la couleur de la mer puis la luminosité particulière.
Puis un restaurant-hôtel qui s'appelle les Templiers, où les artistes, pouvaient être Dali, Picasso, payaient leur chambre ou leur repas avec une toile. Ils sont encore là, mais là, c'est des reproductions. Et vous nous avez parlé que ça vous inspirait cette région-là des pensées un peu mystiques, et oui. Vous nous proposez comme troisième musique l'Oratorio de Marie-Madeleine.
Oui, alors c'est une pièce musicale, un album qui a été produit par l'ensemble Nouvelle-France, qui est un ensemble qui est mené par Louise Courville. C'est un ensemble musical qui a été fondé un petit peu plus d'une trentaine d'années par Louise Courville, qui est musicologue. Et la particularité de cet ensemble-là, Nouvelle-France, c'est qu'elle se consacre à la recherche et à la diffusion de musique historique du Québec, surtout. Du 17e, 18e et 19e siècle. Et,
ça, c'est récent pour vous.
Oui, c'est récent pour moi, mais c'est quand même très, très beau. Et la pièce que je propose aux auditeurs, qui est tirée de l'album L'Oratorio de Marie-Madeleine, ça s'appelle L'Ode au couple nouveau.
Tiens donc.
Et qui est ce couple nouveau? Jésus et Marie-Madeleine.
Ah, alors on va écouter. Avec l'ensemble Nouvelle-France, tiré de L'Oratorio de Marie-Madeleine, L'Ode au couple nouveau. Serge Cazelet, nous restons en France, parce que vous êtes allé en France pour parfaire votre science.
Oui.
Et là, nous allons dans l'ancienne Lugdunum, et qui a été la ville très associée à Irénée, qui était un des pères de l'Église.
Oui.
Et Lyon, vous avez dû un peu lire les textes de M. Irénée là-bas.
Ah ben oui.
Quelle délice!
Oui, et puis surtout d'avoir remonté, élongé le Rhône, alors qu'Irénée nous dit que les gnostiques et les disciples de Marc Lemage infestaient toutes les villes et villages tout le long de la vallée du Rhône. Alors, je me suis délecté en parcourant ces villes et villages-là, mmh. En pensant à Marc Lemage, bien entendu. Mmh. Alors, Lyon, j'y habitais de août 2004 à mai 2005. J'habitais dans un quartier qui est absolument extraordinaire, le 4e arrondissement, le quartier de la Croix-Rousse.
Ah oui?
Sur une rue qui s'appelle la rue d'Austerlitz. Quel quartier extraordinaire. Comme je disais en début d'émission, la vie de quartier que j'avais découvert dans Saint-Sacrement, je l'ai retrouvé là, à Lyon. Je l'ai retrouvé nulle part ailleurs que dans Saint-Sacrement, à Québec.
Ça, c'est un vieux quartier.
C'est un vieux quartier.
Et donc, il y a des traboules. Dans ces espèces de passages couverts, là,
oui.
Qui rejoignent deux rues.
Dans lesquels on s'est promené assez souvent. Et c'est un quartier aussi qui est un ancien quartier ouvrier. De fait, l'appartement dans lequel nous habitions, c'était un ancien atelier.
Des canuts.
Des canuts, c'est ça, les canuts qui sont des tisserands.
Ouais, qui travaillaient la soie, surtout.
Oui, c'est ça. Et il y a encore, bon, il y a un musée des tisserands là-bas, le musée des canuts. Et puis c'est quelque chose qui a marqué l'environnement, qui a marqué l'architecture, qui a marqué même la façon dont certains édifices sont construits avec des grandes cours intérieures. C'est que les gens habitaient là, puis dans la cour intérieure, il y avait l'atelier qui était rattaché à la maison. Et beaucoup, beaucoup d'amis que nous nous étions fait là-bas vivaient dans des appartements qui étaient des anciens ateliers.
D'ailleurs, la vie et les combats des canuts par la suite, tout ça a beaucoup marqué même l'histoire ouvrière de France.
Hein? Oui, oui. Puis aussi, Lyon, ben c'est une ville, si on pense à la Deuxième Guerre mondiale, c'est la ville des résistants.
Mm-hmm.
Il y a une université là-bas, une
Jean
université
Moulin.
Que j'ai fréquentée pendant une année, qui s'appelle l'Université Jean Moulin, effectivement.
Qui était un résistant qui a été, d'ailleurs, tué par les Allemands.
Exactement.
Ils l'ont torturé, si
oui, je me souviens. Oui, par Klaus Barbie lui-même, semble-t-il.
Oui, puis la petite histoire dit que, en fait, il était trahi,
oui, Jean Moulin. Oui, quelqu'un avait trahi Jean Moulin.
Ouais. C'est ça. C'est une ville riche en histoire. Et...
C'est tellement une belle ville. C'est une ville aussi, avec ses vieux quartiers, je pense, au 5e arrondissement, qui est de l'autre côté de la Saône.
Mm.
Qui, parce qu'à Lyon, il y a deux rivières ou deux fleuves, hein, le Rhône et la Saône.
Qui se rencontrent.
C'est ça. Puis on dit souvent, même en fait, il y a trois grandes rivières à Lyon. Vous le saviez, ça, vous, hein?
Il y a
le Rhône, la Saône et le Beaujolais.
Oui, puis le Beaujolais sert à arroser ce qu'on va goûter dans les petits bistrots et les restaurants.
Qu'on appelle les bouchons.
Les bouchons.
En fait, vous savez comment reconnaître, Normand, un vrai bouchon d'un faux bouchon à Lyon?
Allez-y donc.
C'est quand le nom du restaurant, il y a le mot bouchon dedans, on sait que ça n'en est pas un.
c'est une récupération.
Ouais, c'est tout ce que les Lyonnais me disaient.
Ouais. Mais c'est d'ailleurs, il faut le dire aux gens, il faut y aller au moins une fois manger dans un bouchon, mais c'est pas une nourriture légère.
Non, alors on mangeait quelque chose qui est un plat, moi, que j'aimais beaucoup, qui était un tablier de sapeur et sa sauce grébiche.
Mmh.
Si vous voulez que je vous traduise ça,
allez-y.
Tablier de sapeur, c'est un estomac de veau qui était mariné pendant au moins 48 heures dans de la moutarde, du vin blanc et de l'estragon. C'était pané ensuite comme une escalope, frit dans l'huile, et la sauce grébiche, c'est ce qu'on appellerait un peu une sauce tartare. Là. C'est une sauce mayonnaise, crème sûre ou crème fraîche là-bas, là, avec
des
cornichons et des herbes de la nette, habituellement. Puis c'est un plat qu'on mange dans les bouchons. On mange aussi du pied de cochon. On mange du pudding de foie. Je me rappelle plus le nom exact. Ils donnent un nom, eux, à ça. Là, puis
des saucissons, beaucoup de saucissons.
Des très bonnes charcuteries, du saucisson, comme vous avez dit, la fameuse rosette de Lyon.
Alors, j'apprends nos auditeurs et auditrices à témoin. Vous vous êtes sacrifiés vraiment sur... immolé même sur l'hôtel de la nourriture.
L'hôtel de la gastronomie lyonnaise. ce que j'aimais de la gastronomie lyonnaise, c'est l'autre lieu que j'aimais à Lyon, qui était dans mon quartier, c'est le Grand Marché de la Croix-Rousse.
Mm-hmm.
Parce que je n'ai pas fait que fréquenter des universités et des instituts. Comme
vous avez nourri votre corps et votre esprit.
J'ai nourri mon corps d'une nourriture riche et grasse. Et ce qui est assez paradoxal, c'est que dans ce temps-là, j'étais encore plus mince que j'étais aujourd'hui. Puis je mangeais de la charcuterie et je buvais du vin.
C'est beau la jeunesse, hein?
Oui, oui. Mais on mangeait bien, puis c'est ce que les gens nous disaient, puis c'est ce que j'aimais de ce marché-là aussi. On trouvait des produits qu'on ne trouve pas ailleurs, parce qu'ils disaient tout ce qu'ils jettent ailleurs en France, ils l'envoient à Lyon. Alors on a fait des abats, des saucissons faits avec des pièces assez étonnantes les abats.
Ouais.
J'avais aussi l'endroit où j'avais mon bureau, qui était à l'Institut des sources chrétiennes, qui était juste à côté de l'Université catholique de Lyon.
Mmh.
Et à l'Institut des sources chrétiennes, on avait des chercheurs du CNRS, du Centre national de la recherche scientifique, qui était là, avec une équipe permanente aussi, composée surtout de pères jésuites. Uh-huh. Et à tous les soirs, à 5 heures, un des pères jésuites, le père Bertrand, nous faisait du thé. Et à tous les mercredis et à tous les vendredis, on avait un goûter en après-midi. Et bien souvent, il y avait du champagne. Alors, du champagne, j'en ai bu à toutes les semaines à l'Institut des sources chrétiennes. Croyez-le ou non.
Ben, c'est bien. C'est des très gens bien. Que ça vit, hein?
Oui.
Et parlant de savoir-vivre, ce qui est bien aussi dans ce que vous avez vécu, dans les endroits que vous avez nommés, vous l'avez fait en famille.
Oui.
C'est énorme de pouvoir étudier, faire son propre parcours, mais aussi que la famille nous suive et que ça puisse être partagé.
Oui, que la famille puisse vivre aussi ce dépaysement, puis ce réenracinement, ce nouvel enracinement dans un lieu qui nous est complètement inconnu.
Ouais. Puis vous avez une épouse qui vous a supporté, parce que aller d'un coin à l'autre comme ça, là, il faut savoir être capable. Puis,
même encore pour les enfants, ça a été un choc culturel. Je pense à mon plus vieux, sur le coup, qui était plus ou moins heureux d'être là, mais avec le recul aujourd'hui, il nous l'a déjà dit, ça a été marquant. La même chose pour mes deux plus jeunes qui ont fréquenté l'école française pendant un an, avec tout ce que ça peut impliquer comme...
comme découverte.
Oui, comme choc culturel. Ouais. Mais c'est ça, on l'a fait en famille, toute la famille était là. Puis
est-ce que Mylène Farmer vous a accompagné à cette époque-là? Parce que vous nous proposez une pièce d'elle.
Oui, Mylène Farmer, c'est une artiste française extrêmement populaire là-bas, c'est démesuré, on ne peut pas l'imaginer. À quel point elle est populaire. Elle est née au Québec. Mmh. Et effectivement, c'est une artiste.
Un peu comme Linda Lemay. Hein.
Oui, oui. Linda Lemay qui est très populaire en France.
Moi ici. Ouais. Et là, ça s'appelle QI, quotient intellectuel, c'est ça?
Oui, mais vous allez voir, il y a un jeu de mots aussi. Puis c'est ça, c'est une pièce en même temps qui me plaît parce que ça montre un petit peu, ça peut illustrer mes deux côtés, donc le côté savant et le côté plus fêtard.
Ben c'est bien, ça doit être une forme de sagesse de pouvoir associer « mens sana in corpore sano ». Alors écoutons Mylène Farmer, QI.
Thank you.
Serge Cazelet, nous quittons l'Europe, nous revenons en Amérique, nous sommes partis dans le quartier Saint-Sacrement à Québec, nous sommes allés à Saint-Simon dans le Bas-Saint-Laurent, les Pyrénées-Orientales à la frontière de la France et de l'Espagne, Lyon sur le bord du Rhône, et là, nous serons sur le bord de la rivière Gatineau, hein. Nous allons au collège Saint-Alexandre.
Hein. Oui, collège Saint-Alexandre à Gatineau, qui est un endroit qui a été marquant et déterminant durant mon adolescence, parce que j'y ai fait mon secondaire. Là-bas, en fait, j'ai fait de secondaire 2 à secondaire 5, de 80 à 84. Alors, pour la petite histoire, le collège a été fondé en 1912 par la communauté des Spiritains, les Pères du Saint-Esprit, sur l'ancien domaine et à partir de l'ancienne maison d'un bonhomme qui s'appelait Alonzo Wright.
Oui, il y a un pont d'ailleurs qui porte
son
nom.
Oui, il y a un pont qui s'appelle Alonzo Wright qui traverse la rivière Gatineau, qui était juste un peu avant le collège. Alonzo Wright, qui a vécu de 1821 à 1894, un politicien et homme d'affaires très important et très influent, qui avait même reçu comme surnom le King of Gatineau. Et Alonzo Wright avait un grand domaine et une maison, puis la communauté des Spiritains a acquis ça pour fonder le Collège Saint-Alexandre en 1912. Collège Saint-Alexandre, donc 1912, si on s'est compté, ça a fêté son centenaire l'an dernier, le Collège Saint-Alexandre. Puis c'est un endroit qui est chargé d'histoire aussi. C'est un ancien collège classique qui est devenu une école secondaire privée au fil du temps et qui était une école secondaire privée à l'époque où j'y étais.
Est-ce que c'est ça qu'on appelait un temps le Collège de Limbourg?
Oui, oui, parce qu'effectivement, c'est à Limbourg. Oui.
Mais là, tu fais toute partie de la grande agglomération de Gatineau, ça?
Oui, avec les, il y a eu deux vagues de fusion. Là. Il y a eu la fusion des années 2000, mais il y avait eu une autre vague de fusion aussi avant où Limbourg, Templeton, Gatineau, Pointe-Gatineau, tout avait été fusionné. Alors, le Collège Saint-Alexandre. Je garde des souvenirs là-bas, non seulement des souvenirs du lieu en tant que tel, du lieu physique, donc de l'architecture, des locaux, des corridors, mais aussi des odeurs particulières qu'il y avait là-bas. C'est drôle parce que mon fils a fréquenté un collège privé aussi.
Lequel l'aîné?
Oui, l'aîné, à Terrebonne. Il a fréquenté un collège privé, collège Saint-Sacrement, je crois, à Terrebonne, pendant 2 ans. Et quand je suis entré là, j'ai reconnu l'odeur du collège Saint-Alexandre.
Alors, ça sentait un peu l'encaustique, hein, la cire des planchers. On allait autrefois dans les collèges classiques ou en les cas dans les couvents religieuses, puis il y avait cette odeur qui était pénétrante.
Hein. Oui. Alors là-bas, je me suis fait des amis que j'ai encore à ce jour. Je pense à un type qui s'appelle Guy, un autre qui s'appelle Stéphane. C'est des gens avec qui j'étais ami à cette époque-là, qui sont encore mes amis aujourd'hui, puis des amis proches. Il y a aussi eu des personnages marquants, puis j'en retiens trois en particulier.
Des frères.
Un père, un frère, puis un laïc.
Ah bon?
Un laïc qui était à ce moment-là directeur des étudiants, qui s'appelle Jacques Carbonneau. C'est un personnage intéressant. Il était professeur d'histoire aussi, mais moi, je ne l'ai pas eu comme professeur. Je l'ai connu comme directeur. Et c'est un bonhomme qui était fascinant, intéressant. C'est quelqu'un qui se mêlait aux étudiants. C'est quelqu'un qui nous connaissait tous. On était à peu près 500 dans le collège. Il nous connaissait tous par notre prénom. Lui-même, il connaissait même notre personnalité, puis il connaissait même nos manières, puis nos manies.
Ah, c'est bon.
Puis c'est quelqu'un qui était, ce que je retiens de lui, puis c'est en fait le dénominateur commun des trois personnes qui m'ont marqué là-bas, c'est son accueil. L'accueil de Jacques Carbonneau, qui ne, même s'il était directeur, puis qu'il était sévère, il ne nous jugeait jamais. Je le comparais un peu à comment je pourrais comparer ça, c'est comme quelqu'un qui nous reprend, mais non pas pour nous gronder ou nous disputer ou nous prendre en défaut, mais qui nous reprend pour nous donner un élan de plus, pour nous donner un petit coup de pouce. L'autre personnage qui m'a marqué, c'était, lui, c'était un père spiritain qui s'appelait Serge Verrette. Il n'a pas été là tellement longtemps. Lui est décédé aujourd'hui. Lui aussi, c'est l'accueil. Il était animateur de pastoral. Et très souvent, ce qu'il faisait, quand il nous voyait, Parce que les adolescents, naturellement, ont vu des moments de troubles, de turbulences, de questionnements, de remise en question. C'était le genre de gars qui était capable de, d'identifier si ça allait bien ou pas. Il venait nous chercher, puis là, il nous parlait, simplement. Mmh. Il pouvait s'installer dans un corridor, dans la salle des étudiants. Parfois même, il y avait un grand bureau avec une ce qu'on appelait le local de pasto. Puis là, on allait s'asseoir là, puis il nous accueillait. Mmh. Il nous prenait là où on était, puis il ne portait pas de jugement sur personne.
Puis il ne faisait pas de grands sermons.
Pas de grands sermons. C'était un type extrêmement accueillant, humain. Puis en même temps, une fois que la conversation était terminée, là, oups, il nous amenait sur la foi.
Mais c'est bien ça.
Il partageait sa foi.
Mais c'est bien d'avoir une mémoire, vous savez, d'être capable d'en témoigner d'enseignants. Parce que on a tous vécu ça, des gens qui nous ont accompagnés dans nos études et qui nous ont marqués pour différentes raisons, mais que vous soyez capable, comme vous dites, de les nommer, de vous en souvenir et de garder ce souvenir vivant chez vous. Puis il y en a une troisième.
Troisième, c'est le frère Denis. Frère Denis qui est décédé le mois dernier à l'âge de 90 ans.
Oh.
Je suis même allé au salon funéraire. Lui aussi, c'est un personnage assez fascinant. Il s'occupait de la chaufferie au collège. Et aussi, il avait des serres, il avait des vignes.
Oh, tiens.
Il faisait pas de vin, mais c'était des bons raisins. On allait là le matin, là, puis on allait, surtout en automne, là, on allait le voir, puis il y avait ces vignes qui poussaient le long du mur, puis là, on prenait une grappe de raisin, puis on les mangeait. On crachait les pépins de raisin. Il y avait aussi son grand potager. C'est la même chose, frère Denis, c'est un personnage qui on pourrait dire à profil bas. C'était pas quelqu'un qui était très démonstratif, puis mais c'était quelqu'un qui était toujours là,
solide,
qui nous accueillait.
Ouais.
Toujours. Et c'est ça qui est impressionnant. Il y a toujours eu des groupes de jeunes autour de lui qui allaient travailler à son potager. Parce que quand il voyait quelqu'un n'allait pas trop bien, il le prenait et il disait, tiens, regarde, le potager qui est là.
Il a besoin
puis,
de
toi. Ou le printemps aussi, à quelques reprises, pendant les années que j'étais là, puis il avait arrêté ensuite de le faire un peu plus tard, mais il faisait aussi les sucres sur le terrain du collège. Et on allait là, puis on allait le voir, puis si ça allait pas bien, on savait toujours on pouvait aller faire les sucres avec frère Denis. C'était quelque chose qui était impressionnant, puis c'était en même temps une présence rassurante pour des jeunes. Puis moi, j'en connais d'autres, des jeunes aussi qui sont passés par le groupe du frère Denis, puis qui le frère Denis a eu un impact majeur sur leur vie.
Et pourtant, c'est un homme modeste.
Hein? Pourtant, c'est un homme modeste, un frère. Il n'était pas père, il était frère. Puis il rêvait d'être missionnaire. Mais il a été missionnaire à sa façon. Avec son potager et ses serres.
Serge Cazelet, on vous remercie d'avoir partagé avec nous ces souvenirs et de nous avoir ouvert un peu votre personne. Et là, que les gens ont pu constater que vous n'êtes pas seulement qu'un savant. Et on a fait un très agréable parcours avec vous, malheureusement trop bref. Et nous allons nous quitter sur une chanson de Demis Roussos, « Chanter enfant du monde ».
Oui. Alors, cette chanson-là, ça me rappelle mon enfance. Aussi étonnant que ça puisse paraître. C'est une chanson qui a toujours représenté, pour moi, si vous connaissez le film Peter Pan, il a toujours représenté ma pensée heureuse. Qu'est-ce qui est... j'ai découvert cette chanson-là, en fait, c'est quand j'étais jeune, très jeune, là, avant l'âge de 10 ans, mon père a été une période de temps dans sa vie où il chantait cette chanson-là, à la maison.
Je connaissais pas ce talent. Votre père, c'est vrai, c'est une personne qui a beaucoup de talent caché.
Oui, puis il y a des goûts musicaux aussi qui sont parfois étonnants. Moi, je me souviens une fois, je suis entré dans son bureau à la maison, puis il était en train d'écouter du Aristide Bruant en regardant un livre sur les impressionnistes. Mais c'est ça. Alors, il chantait cette chanson-là pendant une période de ma vie. La chanson m'est restée, puis c'est devenu un petit peu ma chanson pensée heureuse. Quand je suis triste ou bien quand je m'ennuie, je me chante cette chanson-là ou je la fais jouer.
Bon, alors on va l'écouter avec vous et on vous remercie de votre passage à nos studios.
Merci de m'avoir invité.
On va écouter Demis Roussos, chanter enfant du monde. C'était Propos sur l'ailleurs, au micro Normand Cazelet, à la technique Guy Lafrance. À la prochaine. Dans ce champ...